Bonjour Daniel Albert.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour nos conversations. Alors, cette semaine, Daniel Albert, nous parlons des relations États-Unis-Israël. Dans 9 jours maintenant, Benjamin Netanyahou s'adressera au Congrès normalement. Quels seront les enjeux de la prise de parole du Premier ministre israélien?
Oui, vous avez raison, et il faut quand même rappeler que pour un dirigeant étranger, parler devant le Congrès, c'est-à-dire devant l'ensemble ce qu'on appelle les députés, les représentants et les sénateurs en même temps, c'est un événement tout à fait exceptionnel. Peu de dirigeants étrangers ont droit à cet honneur. Et la dernière fois que Bibi a parlé devant le Congrès, c'était en 2015. C'était en mars et au fond, c'était une tentative un peu désespérée d'empêcher Obama de signer ce fameux accord sur le nucléaire iranien. J'invite nos auditeurs à retrouver sur YouTube ce discours parce qu'il était très puissant, ce qui prouve que Netanyahou a une maîtrise de la communication, en tout cas avec les Américains. Un Américain parle aux Américains. Et alors, est-ce que il sera aussi convaincant cette fois-ci? On n'en sait rien parce que je ne sais pas du tout ce qu'il va dire. Mais c'est le moment de faire un point quand même sur la relation entre les États-Unis et Israël, parce que on voit que depuis le 7 octobre, c'est absolument fondamental et que c'est au cœur de tout ce qui se passe au Proche-Orient, que ce soit la conduite des opérations militaires, la diplomatie ou la guerre de communication. Alors, il faut rappeler que la relation des États-Unis avec Israël est toujours compliquée, que c'est un grand pays, les États-Unis, et que tout le monde n'a pas la même opinion d'Israël. Les présidents américains qui se sont succédés depuis Truman, depuis après la guerre, n'ont pas toujours été des amis d'Israël. Eisenhower, on s'en souvient, Jimmy Carter, d'autres, Obama. De même, le département d'État, le ministère des Affaires étrangères, n'est pas plus enclin à soutenir Israël que le Quai d'Orsay français. Ce n'est pas des amis. Même aujourd'hui, même avec Blinken qui se déclare juif, c'est compliqué. Par contre, il y a des endroits où Israël trouve toujours du réconfort. C'est le ministère de la Défense, parce que là, les militaires savent de quoi ils retournent, ont des relations extrêmement étroites avec leurs correspondants israéliens. Souvent, le conseiller à la sécurité, aujourd'hui, c'est Jake Sullivan. Qui est l'homme de la stratégie et quand même comprend les enjeux mieux que tout le monde. Et un de ses prédécesseurs, c'était Kissinger. Donc on voit que ici il y a souvent un ami des Israéliens. Et puis c'est surtout le Congrès qui est le support parce que c'est très important pour les Israéliens d'avoir un support bipartisan. C'est parce qu'on parle à la fois aux républicains et aux démocrates. Et là, on voit le résultat du travail qui est fait par un lobby pro-israélien, américain, qui s'appelle AIPAC, AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, qui depuis 40 ans travaille les députés, les sénateurs au corps, je dirais, notamment au moment des élections où ils les aident, y compris financièrement, il faut bien l'avouer. Ça fait qu'aujourd'hui, le Congrès, en très grande majorité, un soutien d'Israël. Donc, d'où l'importance pour le Premier ministre d'aller leur parler. La relation spéciale entre Israël et les États-Unis est en fait récente. Elle date de 1973, de la guerre de Kippour. C'était justement Kissinger qui était auprès de Nixon et les premières semaines, les premiers jours avaient été catastrophiques pour Israël et Kissinger était à la manœuvre pour organiser un pont aérien en faveur d'Israël. Il a pris un peu de temps et on s'est demandé pourquoi il y avait un petit peu de ce sorte d'hésitation. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que l'idée des Américains, n'était pas de laisser l'Égypte de Sadat remporter quelques victoires pour un petit peu redresser l'honneur des Arabes et permettre ensuite une négociation plus facile vers la paix, ce qui a eu lieu d'ailleurs. Donc voilà, la perte de face est aussi importante chez les Arabes que chez les Japonais ou les Chinois. Et donc c'était peut-être une opération qui a été bien menée. Ceci dit, depuis que Les Américains sont proches d'Israël. Ils réalisent vis-à-vis d'Israël trois grandes opérations. La première, évidemment, c'est de la défendre, de l'aider en lui fournissant des armes, des renseignements, de l'argent et d'être à ses côtés. Mais aussi deux autres directions qu'il faut rappeler parce qu'elles sont importantes sur la durée. Un, c'est permettre à Israël de s'intégrer à sa région. Et donc c'est le rapprochement d'Israël avec les États arabes, c'est réussi, hein. Donc c'est une victoire et il faut en remercier les Américains. L'autre, c'est de permettre à Israël d'avoir une position très forte dans le monde, notamment en faisant d'Israël la start-up nation. Et donc c'est grâce à sa domination mondiale dans les domaines des hautes technologies qu'Israël a pu développer des bonnes relations pratiquement avec presque tous les pays du monde. Et ça a été beaucoup dû aux Américains qui ont été les grands financiers de la high-tech américaine, soit des fonds publics, soit maintenant des fonds privés. Et donc tout ça ne doit jamais être oublié. Il y a d'autres considération, la sophistication de l'armement de Tsahal vient en grande partie de l'aide de la recherche et du développement dans les armements des Israéliens. Donc il y a beaucoup de recherches en commun entre Israël et les États-Unis sur les armes nouvelles, en particulier les missiles antimissiles, les fameux Patriot, le dôme de fer, tout ce qui a trait aux semi-conducteurs. Il y a des choses très intimes qui permettent de dire qu'au fond, même quand c'est fabriqué par les Américains, beaucoup d'armes contiennent des éléments israéliens. Et puis, ne jamais oublier que grâce à Israël, les Américains sont présents au Moyen-Orient sans avoir besoin d'avoir des hommes. Il y a des bases américaines au Moyen-Orient, mais elles sont au Qatar, elles sont en Irak, elles sont en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de base américaine, au fond, en Israël. Il n'y a pas besoin. La base américaine, au fond, au Moyen-Orient, c'est Israël tout entier, d'une certaine manière. Ça veut dire surtout que, entre les deux pays, l'idée, c'est quand même d'avoir une relation plus équilibrée. Ce n'est pas seulement les États-Unis qui aident Israël, Israël contribue beaucoup à la réussite et de la politique américaine. Et puis on vient le
Justement,
7
Daniel,
octobre.
je voulais vous poser la question suivante. On parle de la relation entre les deux pays. Les États-Unis offrent un soutien impressionnant à Israël, mais il y a des doutes du côté israélien, non?
Ben oui, regardez comment se passe depuis le 7 octobre. D'un côté, le soutien était immédiat et n'a jamais fléchi, mais de temps en temps, on entendait des critiques extrêmement fortes de Blinken, de Biden, des menaces de ne pas livrer tel ou tel armement. Donc on voit que c'est assez ambivalent. Et on voit surtout que pendant toute la conduite de la guerre, il a fallu à Israël négocier pratiquement toutes les opérations. Rafah, par exemple, a été le résultat d'une forte négociation avec les Américains. Vous savez, les Israéliens n'oublient jamais ce qui s'est passé avec la France. Pour les Français, même De Gaulle avait proposé cette phrase dans les années 60, Israël est notre ami et notre allié, et ça s'est terminé par ce peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Donc il y a toujours cette idée qu'à un moment donné, un grand pays comme les Américains peuvent considérer que leurs intérêts vitaux sont pas exactement les mêmes que ceux des Israéliens, ce qui est le cas, hein. Les Américains ont une vision globale et les Israéliens ont une vision individuelle de leurs intérêts. Le plus important pour les Israéliens, c'est de regarder la politique extérieure américaine depuis Obama. Obama a fait un pivot vers la Chine. Et en disant au fond, et l'Europe et le Proche-Orient sont des priorités secondaires pour les Américains. Et donc ça a marqué les esprits. Et donc même l'importance du lobby juif aux États-Unis suffit pas à garantir un soutien indéfectible, d'autant qu'au fond les Juifs américains sont souvent en retrait par rapport au soutien à Israël pour tout un tas de raisons. Ils n'aiment pas beaucoup Netanyahou. Ils trouvent que les juifs orthodoxes ou les sionistes religieux prennent trop d'importance par rapport au fond au caractère très libéral du judaïsme américain. Et puis, il y a toujours l'idée que les évangélistes américains sont finalement les meilleurs soutiens d'Israël. Mais c'est un soutien ambigu, hein, puisque au fond, les évangélistes, eux, ils pensent à la venue du Messie un jour et que tout le monde devienne chrétien. Donc, si vous voulez, oui, vous avez raison. C'est une relation qui est avec une point d'interrogation, mais c'est pour ça, et je reprends mon propos de tout à l'heure, c'est très important pour les Israéliens d'obtenir une relation plus, comment dire, équilibrée. Et justement, une des choses qui se prépare pour l'avenir, c'est probablement l'organisation d'une coalition d'Arabes sunnites avec Israël qui serait soutenue par les Américains. Mais ce soutien, s'il est comment garanti par un traité, finalement fera perdre à Israël un certain nombre de marges de manœuvre. Aujourd'hui, il n'y a pas de traité entre Israël et les États-Unis. C'est une aide qui est à chaque fois remise en cause, mais qui ne manque jamais. Avec un traité, les marges de manœuvre ne permettraient pas à Israël d'avoir une politique plus indépendante. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, ce serait un peu une sorte de conclusion, c'est que plus les Américains, les Israéliens se rapprochent, moins les Israéliens ont la possibilité de développer des relations comme ils le souhaiteraient avec l'Europe et avec la Chine, par exemple, qui est un des grands enjeux de la discussion. Voilà, donc c'est une relation compliquée, on en reparlera certainement, et elle va se jouer dans les jours qui viennent, vous le rappeliez très bien avec la visite au Congrès le 24 juillet, et il y a aussi cette élection américaine qui est avec l'attentat contre Trump, l'âge du capitaine, tout ça, c'est plein de questions. Et donc ça veut dire aussi que les opérations au Proche-Orient ne vont pas probablement se dénouer rapidement et Israël s'installe un peu à Gaza dans la durée.
Et on en reparlera évidemment
Bien
dans
sûr.
nos conversations, Daniel. Merci beaucoup. On rappelle également, vous parliez des relations internationales. On rappelle qu'Israël a signé un accord d'1 milliard de dollars signé avec le Maroc pour 2 satellites israéliens d'observation qui donc c'est Israël réussit quand même, malgré la guerre, à avoir des relations internationales avec les États-Unis, avec le Maroc. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous, ce
Merci Blaise
matin.
d'avoir rappelé tout ça et je rappelle aussi que les Israéliens livrent bientôt des armes aux Allemands. Non, non, vous avez raison, Israël n'est pas totalement isolé et coupé du monde. Heureux et fort heureusement, on en reparlera.
On en reparlera. Merci, Daniel. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.